Il y a longtemps que vous êtes à Orléans?
Ouais, je... Oui, je suis né dans la région, je suis né par ici. J'ai toujours été à Orléans, pratiquement.
Oui.
Depuis 47.
Depuis 47?
Oui.
Vous êtes né en 47?
Non, je suis né en 41.
41. Et de 41 à 47, où est-ce que vous êtes?
Ah, je suis ici, dans la banlieue proche.
Dans la banlieue proche, ouais. Orléans.
Je suis né à Chessy. Mmh. Mon père, on est boulanger depuis 3 générations. Mmh. Et là, j'ai pris la succession de mon père, ici, depuis 3 ans.
Quand est-ce que vous avez quitté la banlieue? C'était pour quelle raison?
Ah ben, 47, là, parce que mon père avait une boulangerie en campagne, à Chessy, là. Mmh. Et puis il a pris celle d'ici, parce que c'était plus fort.
Il vous plaisait en Orléans?
Oui, oui.
Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui vous plaît?
Parce que j'ai quand même des attaches de la campagne qui est proche. Quoi. Et à 5 minutes de voiture, ça nous permet de retrouver nos... Disons que on est en ville sans y être tout à fait. On a les avantages de la ville. Et on peut s'évader facilement. Il y a la Sologne qui est une des plus belles régions de la France. Nous, le Léalie, tout ça, c'est très reposant. Mon père a une maison sur les bords de la Loire. Quand on veut aller à Paris, c'est pareil, c'est relativement proche. Avec une heure de voiture, avec l'autoroute, la route facile, ou en train. Pour ça, on a les avantages de la ville, même de Paris, puisqu'on est près. Point de vue commerce, c'est très bien. C'est quand même une ville qui est en expansion. Puis je vous dis, la campagne qui est toute proche. Et on retrouve, je crois, chez les Orléanais, disons, je crois qu'on doit trouver une manière de vivre presque, pas campagnarde, mais enfin presque. Les gens, disons qu'il y en a beaucoup qui sont d'origine. Ouais.
Est-ce que vous comptez rester en Orléans?
Ah oui, 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 toute ma vie.
Oui, pourquoi?
Pour ça. Parce que même je voyage pas mal, enfin, pour les vacances, tout ça. Il n'y a aucune région qui m'attire vraiment. Même peut-être pour son climat aussi. Parce que dans notre région, même enfin, Orléans, le Val-de-Loire, on a... Je crois que les saisons sont... C'est peut-être une des régions où les saisons sont les mieux accentuées, quoi. On a un hiver, on a un printemps, c'est visible. On a un bel automne. On apprécie bien tout ça. Et puis Orléans, ben, au point de vue commerce et tout, c'est quand même une ville qui a de l'avenir, quoi.
Mais bon,
ah ouais. Là, la boulangerie, elle est bien placée, elle est dans le centre de la ville, il y a du passage. Ça, il n'y a rien qui me tente ailleurs. Je reste à Orléans parce que je ne vois rien d'autre qui me tenterait. C'est pour d'autres raisons. Mmh. Quand on a envie d'aller ailleurs, c'est parce qu'on voit quelque chose qui vous plaît mieux. Pour des raisons qui vous sont sensibles. Mmh. Mais là, non.
Qu'est-ce que vous faites comme travail?
Eh bien, moi je suis boulanger, pâtissier, et je me lève, je fais les croissants, et un peu le pain. Alors j'ai 3 ouvriers, je me lève à 2 heures, je fais les croissants, puis après je fais les tournées. Je vais le livrer dans les hôtels, les restaurants, à partir de 6 heures du matin, quand les cafés, les restaurants, ils ouvrent. Les hôtels, tout ça, je livre mes croissants.
Mais c'est vous qui faites les tournées.
Oui, j'ai une petite voiture, ça dure pour toute la matinée, mais presque. Ça, j'ai une bonne clientèle, quoi.
Et après ça?
Et ben après, il y a tout de même un peu le travail du patron, quoi, pour superviser un peu tout. Entre-temps, je reviens au fournis, je regarde un peu. Ma femme allait au magasin, alors de ce côté-là, je ne m'en occupe pas. Enfin, ça me laisse un peu de temps libre quand même. Ce qui me plaît, c'est que à partir de 6 heures, quand je fais mes tournées, je vois du monde, tout ça, je ne suis pas enfermé dans. Comme certains artisans qui sortent pas de leur truc, de leur atelier ou de leur. Je vois du monde, je discute, surtout dans les cafés, c'est une ambiance qui est plaisante. J'ai travaillé quand c'était mon père qui était là, j'étais co-fourni. Et là, c'était moins bien. Quand on est 10-12 heures dans un fourni, qu'on voit personne, ça lâche, quoi.
Vous aimez votre métier?
Ah oui, oui. Oui, j'aime bien.
Uniquement à cause des tournées ou...
Non, le métier.
Le métier lui-même.
De faire du pain.
Oui, pourquoi?
Parce que c'est un métier que... Il y a... À la boulangerie française, il y a tellement de... Dans la fabrication du pain, tel qu'on le fabrique en France, il y a tellement de... Tel que le français en est friand, il y a tellement d'impondérables, de choses que... Il y a vraiment que l'homme et... qui par l'amour du pain, quoi, qui peut arriver à faire ça. Je crois qu'aucune machine pourra faire du pain. On en reparlera dans 50 ans, on y repenserait. On peut aider le boulanger, mais pour la conception du pain, tel qu'il est mangé en France, ça c'est plaisant parce que c'est toujours renouvelé. Tous les jours, il y a des problèmes nouveaux, suivant le temps qu'il fait. On se passionne pour un travail parce que tous les jours il y a un intérêt nouveau à la fabrication. Si par exemple le pain ce serait quelque chose de métallique ou de solide, que tous les jours c'est la même chose, je crois que l'on s'en remet très vite.
Et pourquoi c'est pas la même chose?
Il y a tout qui rentre en jeu, c'est comme si j'étais médecin, vous êtes malade, vous venez me voir, vous dites j'ai mal au ventre, d'où ça vient? Hein, il peut y avoir 1000 choses, alors c'est au boulanger de trouver ça. Hein, le pain, dans son développement, par exemple, quand il pleut, non merci, je suis pas. Quand il pleut ou qu'il fait froid, ça peut la pâte élèvera deux fois plus vite par un temps doux que quand il fait froid. Quand les boulangers peuvent sentir le temps qu'il va faire, rien qu'à voir leur pâte, le comportement de leur pâte.
Ah bon?
Oui.
Vous pouvez expliquer un peu, décrire un peu ça?
Eh bien. Par exemple, la pâte, vous savez que c'est collant, la pâte. Et quand elle croûte, c'est-à-dire que sur la pâte, il se forme une croûte, c'est que le temps va être froid, il va faire froid. Quand la pâte est très très collante, c'est une sorte de baromètre, c'est qu'il va tomber de l'eau. Il va pleuvoir. Ça, c'est infaillible. Quand la pâte lève vite et qu'elle est collante, c'est que le temps est lourd et qu'il va... Je vous dis, un pain qui peut y avoir... Je vous dis des facteurs à l'infini pour faire le pain. Depuis le pétrissage jusqu'à la cuisson, c'est pour ça que c'est un travail qui est intéressant. Ça demande un intérêt d'un bout à l'autre.
Vous pouvez décrire un peu les différentes étapes.
Oui, ben, le pétrissage, c'est connu, quoi. En théorie, c'est de mettre de l'eau, de la farine et du sel, et de la levure pour faire le levain. À l'heure actuelle, on pétrit plus vite pour obtenir un pain. C'est-à-dire le pétrin a une vitesse de rotation plus rapide pour obtenir un pain qui est plus oxygéné la pâte. C'est-à-dire on pétrit pendant 20 minutes. Ça vous fait un pain qui est plus croustillant, surtout que les farines à l'heure actuelle sont de moins bonne qualité que les farines de nos pères. Et alors après le pétrissage, et tout ça je vous dis c'est théorique puisque tout ça peut varier évidemment jusqu'à l'infini. Après il y a le façonnage, c'est-à-dire qu'on façonne la pâte après qu'elle est élevée pendant une heure à peu près. On façonne la pâte suivant les variétés de pain. Hein, ça va depuis le petit pain de 30 grammes jusqu'au pain de 2 kg. Alors là, justement, dans ces phases de fabrication, le façonnage, le pétrissage, là, la machine pourra intervenir pour soulager le boulanger. Des choses qu'on faisait manuellement, mais dans la conception même de la pâte, pour faire un diagnostic, si vous avez un pain, tout ça, Ou alors il faudra vraiment des ordinateurs extraordinaires. Et encore, je ne crois pas que Bon, alors après, le façonnage du pain. Alors après, on laisse pousser, on laisse lever la pâte, le pain quand il est façonné pendant 1 heure ou 2 heures, suivant la grosseur du pain. Puis après, il y a la cuisson, qui est une phase totalement indépendante. C'est un ouvrier qui se... Il y a un ouvrier qui fait que la pâte et un autre ouvrier qui fait la cuisson. L'ouvrier qui fait la cuisson s'appelle brigadier. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être des termes d'avant. Et alors il m'arrive des fois l'après-midi, quand il manque de pain, quoi, d'en refaire. Alors là, quand on s'occupe tout seul, c'est très plaisant pour ça.
Il arrive de le faire vous-même, ça.
Ah oui, très souvent. Très souvent. Et des fois on est trois, des gars qui ont 20, là on voit qu'ils sont relativement jeunes, mais des gars qui ont, même des ouvriers qui ont 20 ans de métier, à trois, le pain présente un défaut, et à trois, on n'y arrive pas, on sèche, faut que, avec toute notre meilleure volonté, on est des fois 2 ou 3 jours à trouver ce qui se passe. Ça peut venir de la qualité de la farine, de la température de l'eau, de la quantité de levure, du temps que la pâte lève dans le pétrin, du temps que la pâte lève après le pétrin, du pain qui peut être trop serré ou pas assez serré, du four qui est trop chaud, des tas de facteurs, une fenêtre ouverte, un courant d'air sur un pain, ça y est. Il faut des attentions. Pour ça, il faut vivre dans la fourmi pour avoir le soin que... Et c'est vraiment... Moi, je vous dis, je compare un peu le métier de boulanger à un médecin qui est au sujet d'un patient, même d'un vétérinaire, parce qu'un patient, il peut expliquer ce qu'il ressent. Alors qu'un pain, on est devant le fait accompli que le pain présente tel caractère, d'où ça vient. Pourquoi il rougit, par exemple? Pourquoi un pain, il va rougir? Pourquoi il va faire des cloques sur la croûte? Alors, c'est peut-être parce que l'eau est trop froide, ou manque de pointage, ou le four trop chaud, ou trop serré, ou... Alors, c'est au boulanger de déterminer ça, et d'avoir un travail suivi. Ouais. Il arrive des fois que... en cours de nuit, que rien que le changement de température, ça... Enfin, c'est un travail très intéressant, très attachant.
Et qu'est-ce qui vous plaît le plus en faisant ce travail?
Eh bien, l'ambiance aussi, je crois que l'artisanat, ça permet... Vous voyez, je suis patron, on a des rapports... Si vous voulez, on est patron, on est des ouvriers qui sommes à notre compte. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patrons, à l'heure actuelle, qui ne sont pas ouvriers, qui sont patrons seulement. Alors que chez les artisans, dans nos métiers, le patron, il faut qu'il fasse la preuve de ses connaissances s'il veut avoir un minimum de respect, mais enfin de... Il faut qu'il fasse voir à ses gars. Qui sait, quand les gars savent pas, il faut qu'ils soient capables de dire pourquoi. Hein? Alors il y a ça. Alors, quand on est né là-dedans, il y a quand même une ambiance qui se crée, si on est une bonne équipe. Et puis on a le plaisir de faire quelque chose avec ses mains aussi. C'est pas négligeable. Hein, vous voyez, par exemple... Et d'ailleurs, le pain, la concurrence, tout ça, alors on est obligé de toujours se maintenir dans une bonne qualité, la pâtisserie, tout ça. Je crois qu'en pâtisserie, mes connaissances sont plus limitées. Voilà. C'est ça qui me plaît dans ce métier.
La concurrence joue pour la...
Ah, énormément, oui.
Ah oui,
ah oui.
Je pensais que tu avais acheté...
Ah, pas du tout.
Toujours la même petite.
Pas du tout. Ah non. Je ne sais pas si vous êtes mangeur de pain ou si vous êtes habitué à votre pain. Par exemple, un des avantages de notre métier en face des supermarchés, c'est que, disons, c'est la vente directe du producteur au consommateur. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est un pain chaud qui présente une mie croustillante, une croûte qui soit croustillante, bien dorée et le plus frais possible. Chose qu'un supermarché ne pourra jamais offrir. Que c'est jamais que des produits de revente. Et ça, le français est très, très, très. Il est gourmand de pain, c'est un mangeur de pain, et il est très connaisseur aussi. Et la concurrence, je crois même.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous déplaisent dans ce que vous faites ?
Ben oui, je pense. Ma femme. Je pourrais dire le travail de nuit, mais ça ne me déplaît pas. J'aime bien travailler la nuit. Vous voyez, la nuit, c'est encore un des côtés. La nuit, des fois, il m'arrive de sortir dehors, de regarder les étoiles, tout ça. La ville est morte. On est tout seul. On a l'impression que la ville, elle est à nous. C'est pas. À partir de 8 heures, c'est plus pareil. Après, quand toute la ville démarre, tout ça, c'est plus pareil. Il y a un petit côté poétique dans le métier.
Et ça vous arrive souvent de travailler la nuit
ou... Ah, toutes les nuits, je me lève à 2 heures toutes les nuits.
Ah bon mmh.
Je commence à 2 heures jusqu'à. Je me couche à 1 heure, je fais une petite sieste l'après-midi. Le soir, je prépare mes pâtes. Je fais un levain pour le lendemain matin, je prépare mes croissants. Mes pâtes à croissant, mes pâtes à pain au lait, et de façon que les pâtes élèvent pendant la nuit, et le matin j'attaque. Ce qui me plaît pas dans le métier, quoi. Enfin dans mon métier ou dans ma situation?
Dans le métier, oui.
Dans le métier? Dans le métier par lui-même, il n'y a rien. Si ce n'est les choses de. Ce qui désavantage l'artisan, c'est qu'il est obligé de faire par lui-même tout ce qui est administratif, disons, dans le métier. Hein? Alors, moi, j'aime bien faire le pain, mais quand il s'agit de. On est obligé de se faire seconder pour faire les. Surtout maintenant, avec les choses de facture, tout ça. Vous voyez, je parlais tout à l'heure que je vendais les croissants dans les restaurants. Alors, il faut leur établir des factures en nouveaux exemplaires, tout ça, c'est des choses qui viennent se greffer sur le travail et qui prennent de plus en plus de temps. Qui finissent chez un artisan, il va passer autant de temps à faire ces choses-là qu'à faire son travail d'artisan. Alors, dans une maison qui a relativement de l'importance, vous comprenez, il y a des personnes qui font que ça, quoi. Mais là, dans une petite maison, bah, c'est le patron qui fait tout ça, les feuilles de salaire, les déclarations, l'assurance sociale, c'est tous les jours, il y a quelque chose à faire, tous les jours. Et ça, c'est le côté qui ne m'emballe pas tellement. Mais les choses.
Et vous disiez que dans votre situation, qu'est-ce qui.
Ah oui, mais je pensais dans mon. Ouais, ma situation qui me plaît bien.
Si vous n'aviez pas fait ce métier-là, qu'est-ce que vous auriez aimé faire comme métier ?
Ouais, j'aurais bien aimé soit travailler, d'ailleurs j'y ai pensé un peu, dans les eaux et forêts. Il y a une école pas très loin d'ici, je crois à Bourges, je sais où, qui forme des ingénieurs des eaux et forêts, enfin c'est des. C'est des gens qui sont chargés de travailler dans les bois, dans les eaux forêts. Quoi. Faire ça, ou alors j'aurais bien aimé aussi être technicien, faire des ponts, pareil, il y a une entreprise à côté d'ici. J'ai des copains qui y travaillent, c'est très intéressant. Ils ont fait le pont de Tancarville avec, vous voyez, des choses comme ça. Ça ne m'aurait plus aussi. Sans ça, il n'y a rien qui m'aurait. C'est ça qui me plaît le mieux.
Et qu'est-ce que vous pensez du travail des femmes mariées ? Est-ce que vous êtes personnellement, enfin, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est naturel ?
Eh bien, je crois que ce sera surtout à elles que faudrait demander ça, aux femmes.
Oui.
C'est nous les hommes. Je crois que les femmes, ils préfèrent travailler. Moi, dans mon cas, c'est. Je crois qu'une femme, à l'heure actuelle, une femme, c'est préférable qu'elle travaille parce que se sentira plus, pour parler d'égal à égal avec son mari, disons, dans l'émancipation de la femme, ça compte pour beaucoup, parce que une femme qui ne travaille pas, si c'est le mari qui apporte le salaire, elle n'aura plus de... Elle sera plus soumise à son mari, alors que si elle travaille, que si elle est en somme légale de son mari, elle fait preuve de qualité en dehors du foyer. Et des fois, il y a des surprises comme ça, des femmes qui se montrent même supérieures à leur mari, qui s'extériorisent dans leur travail, que chez eux, ils sont trop à l'étroit et ils sont pas faits pour ça. Vous voyez, élever des gosses, tout ça, ça s'étouffe là, dans cette vie. Ouais.
Vous, personnellement, vous êtes plutôt favorable alors?
Ah, moi je suis favorable. Moi je suis favorable de. En principe, c'est la femme qui décide. Hein. Dans 95% des cas. Directement ou indirectement, elle arrivera toujours à ses fins. Alors. Si elle a envie de travailler, c'est qu'elle a des dispositions pour ça. Puis c'est que c'est, si elle veut rester chez elle, c'est qu'elle aime les enfants, c'est préférable.
Et votre femme, elle travaille
Ah oui, oui. Alors là, le corps n'est pas le même, puisque on a une petite bonne qui s'occupe des enfants. C'est que ma femme, elle peut être privilégiée dans ce cas-là, c'est qu'elle a la surveillance de ses enfants et tout ce que ça comporte de soins et tout, d'attention. Et en même temps, elle a la boutique qui est au rez-de-chaussée. C'est que, comme c'est pas loin, elle est sur les lieux même de son travail. Pour une femme, ça doit être intéressant.
Est-ce que vous pouvez dire ce que vous faites de vos temps libres? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez des heures de liberté?
Ben, moi, j'aime bien beaucoup de choses. Tout ce qui est sport mécanique, d'abord, j'ai une moto. Une grosse moto et j'aime bien aller me promener comme ça tout seul. Aussitôt le soir, si j'ai une heure de libre, aller dans le couloir, hop, je prends ma moto et je vais me promener. Soit dans la rue ou dans les alentours, comme je disais, à 5 minutes d'ici, je suis dans les bois, tout ça. Je fais un peu le sport, je fais de la culture physique pour m'entretenir. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me passionnent, mais c'est souvent des lubies. Par exemple, un jour je vais me passionner pour la photo, alors je vais faire 2 ou 3 films l'un derrière l'autre, mmh. Et puis après, je mets l'appareil dans le truc, puis je suis dans le placard, puis je fais un an sans s'y toucher. Mmh. Ou alors, je vais me passionner pour... J'aime bien lire aussi, je lis beaucoup. Enfin beaucoup... Ouais, je lis pas mal, je lis... Mettons... C'est le bonheur d'avoir un beau-père qui travaille dans la presse. Et je peux lire une dizaine d'hebdomadaires par semaine. Ça fait que je suis à peu près au courant de pas mal de tout ce qui se passe, de toutes les tendances. Je lis aussi de temps en temps. Quand je vois une critique qui est bonne pour un bouquin, qui correspond à ce que je recherche, j'achète ce bouquin. J'aime bien la lecture.
Et le soir, par exemple.
La télévision, tous les soirs, la télévision. Cinéma de temps en temps, les sorties, la voiture,
le samedi.
Je fais un peu de bateau, comment?
Le samedi.
Ben, le samedi, non, moi c'est le lundi.
Ah oui,
c'est jour de
oui alors le lundi,
ouais.
Le dimanche par exemple, qu'est-ce que vous faites?
Ben, le dimanche, comme ma femme garde le magasin, ouais. alors je pars avec les enfants, j'emmène les enfants chez ma grand-mère, chez ma mère disons, chez leur grand-mère. Et là-bas, il y a un petit terrain de motocross. On se retrouve avec plusieurs copains, on fait du motocross. Je me suis monté une moto. J'ai deux motos de cross et puis une moto comme ça. Enfin, disons que je suis pas mal attaché à la moto. Quoi.
Et le lundi, alors?
Ben, le lundi, c'est la sortie familiale. L'après-midi, les enfants sont pas là. On va se promener à la campagne. Le lundi, c'est familial. Comme tout le monde.
Dimanche dernier, par exemple, ce que vous avez fait.
Eh bien, ça. Je suis allé faire du motocross. Puis comme les journées sont courtes, je suis rentré pas trop tard.
Pendant les vacances d'été, qu'est-ce que vous allez faire?
Eh bien, là, cette année, on a loué un appartement sur l'Atlantique. Comme les enfants sont. Les autres années, on ne pouvait pas y aller parce que les enfants étaient trop petits. Mais là, maintenant qu'ils marchent, qu'ils courent, tout ça, on va leur faire connaître la mer, ces choses-là. Alors, on a choisi l'Atlantique parce que le climat est plus vivifiant. Et puis. Puis il y a les pins, tout ça, c'est bien. Comme étant gosse, j'étais par là, ça m'avait frappé. Et s'il pourrait avoir les mêmes joies que j'ai eues étant petit, ben, ça serait bien.
Vous aimeriez avoir davantage de temps libre pendant la journée, les jours de semaine?
Bon, moi j'en ai pas mal, non, je suis pas à plein.
Si vous aviez 2 heures de plus, par exemple, qu'est-ce que vous feriez?
Les mêmes choses. Je lirai un peu plus, je ferai un peu plus de moto. Si on a de temps. Enfin, non, vraiment, non, j'en éprouve pas le besoin d'avoir plus de temps.
Même pour...
Non. Au contraire, plus on est pris, plus moins on voit le temps passer, moins on a le temps de s'ennuyer. Plus on accorde de prix à une chose quand elle vous est donnée. Vous comprenez? Si par exemple, je vois comme certaines gens qui travaillent 8 heures et puis qu'après, je sais pas, on n'apprécie plus à sa juste valeur quand on a 1 heure de loisir.
Et vous, alors, vous travaillez de quand combien d'heures vous travaillez, vous savez?
Bah oui, je commence à 2 heures, jusqu'à 1 heure ou 2 de l'après-midi. Quoi. Puis après, le soir, j'ai encore 1 heure de travail. Puis entre-temps, il y a des jours, je ne peux pas dormir l'après-midi. Je suis toujours pris à droite à gauche. Vous savez, le travail d'un patron, c'est pas des horaires fixes. C'est surtout il y a beaucoup de présence. Disons. On ne peut pas dire que je suis attaché à mon travail. Si j'ai envie d'aller voir un coup avec un copain, je m'en vais, la maison continue de tourner.
À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait enseigner avant tout aux enfants à l'école?
Eh bien, il faut renseigner ce qu'on enseigne de moins en moins, hein, ce qui tend à se perdre. Vous voyez, nous avant, pourtant je suis pas vieux, je suis né en 41, et bien, j'ai encore connu, le matin à l'école, le maître, il nous mettait tout au tableau. Il appelait ça une maxime, je crois, quelque chose comme ça. Les choses qu'il fallait, il nous mettait bien dans la tête, qu'on accordait du crédit, d'accorder du crédit à des choses que maintenant on sait même plus ce que ça veut dire. Par exemple, l'amour des parents, l'amour du pays. Par exemple, je suis boulanger, vous voyez, ben à l'école, le pain, c'était quelque chose de... Maintenant, le pain, parler du pain à gosse, le pain, c'est quelque chose qui jette, quand on... Alors que, je vous dis, je suis pas vieux, je suis d'un 41. Moi, j'ai été élevé, c'est peut-être que j'étais élevé à la campagne, que des choses comme le pain, comme un couteau, comme des choses comme ça, ça avait un prix, oui. Ça avait quelque chose. Le pays, le drapeau, il y avait, dans un pays, il y avait le gendarme qui était respecté. Qui faisait la justice. Maintenant, le gendarme, c'est... Hein, on l'insulte. Il y avait le curé. Le curé qui représentait la moralité, des choses comme ça. Il y avait le maître d'école qui était respecté, que les parents allaient voir pour... Hein, c'est des choses comme ça qu'on devrait mettre... Je vous dis, c'est tout à fait le contraire qui se passe. Que dès l'enfance, on devrait... Je trouve qu'il y a quand même des gens qui... qu'on respecte de moins en moins et qui devrait être respecté. Qu'on devrait dire aux gosses, la société, c'est quand même un ensemble de monde, il faut que justement, c'est pour un collège anglais, je vois qu'il faut quand même un minimum de respect pour les choses établies. Il devrait y avoir des... Je vous dis, à l'école, vous avez peut-être connu ça, vous, enfin, quel âge vous avez, je ne sais pas.
Même âge que vous.
Comment ?
Même âge que vous.
Quand vous étiez gosse, vous avez fait pour ça, quand j'étais à l'école.
Il y avait des choses comme ça. Oui.
Nous, à l'école, le matin, ils disaient, il y avait le laboureur dans son champ, il y avait l'angélus, il y avait des, je vous dis, des choses qui frappent quand même.
Mais comment ils le mettaient, par exemple, le tableau ?
Comment
ils le mettaient ?
En haut à gauche. C'est ce qui fait que toute la journée à l'école,
une phrase, une
maxime. Je crois qu'il appelait ça une maxime, alors c'était à méditer.
Ah oui, d'accord.
Et toute la journée, quand il faisait ses trucs au tableau, lui, il mettait tout à fait en haut à gauche. Ce qui fait que toute la journée, c'était inscrit en haut.
Ah oui, d'accord.
Et que quand on regardait le tableau, automatiquement, on avait les yeux là.
Ah oui, c'est bon.
Je vous dis, il y avait des... Je ne me rappelle plus des maximes, c'était sur peut-être un vers de Victor Hugo, ou... C'était pour lui qu'il l'inventait, c'était une maxime d'un poète, ou d'un écrivain, d'une chose comme ça. C'était l'ouvrier sur son établi, c'était... Je vous dis des choses que maintenant... c'est pas sa vraie place. Et je crois que les parents et les éducateurs, ils ont le tort de laisser des enfants trop livrés à eux-mêmes, qui se font des idées des fois biscornues d'une société qu'ils ne connaissent pas, hein, qui s'aperçoivent ce que c'est, mais quand ils ont trop tard. Bon, c'est ça qu'on devrait leur apprendre. Puis peut-être plus de choses aussi. L'histoire aussi. Entre ça, le reste, c'est bien. Vous voyez, quand j'étais gosse, par exemple, je trouvais bizarre qu'on nous apprenne l'histoire de France. Je disais, à quoi ça peut m'en servir de savoir... Eh ben si, c'est bien. Parce que ça donne un sens à la vie, à la France. On sait pourquoi on est là, d'où on vient, d'où on va. Par exemple, s'il y a un monument sur une place, je me souviens avoir vu un chef africain qui disait que la société en Afrique, tout ça, c'est intenable parce que les gens, ils n'ont rien derrière eux, vous comprenez. C'est comme une... Dans un passé de 50 ans, ils ne savent pas d'où ils viennent, quoi ils tiennent. Nous, tous les ans, il y a la fête Jeanne d'Arc, ça se passe en 1420. Eh bien, c'est des choses quand même qui donnent un sens aux Français, à un pays. Pourquoi rester fait ça?
Vous y allez, la fête des Jeunes d'Arc?
Ah oui, enfin on y va, même pas sous notre fenêtre.
Oui.
Disons que ça a été... C'est une petite fête. Une fête de souvenirs, vous voyez, par exemple, c'est pas inutile, les commémorations de guerre, tout ça. Hein? Moi, je trouve que c'est... Faut que ça soit fait, faut que les gens prennent conscience qu'il y a quand même, même s'ils sont morts pour rien, ces gens-là, ils sont sûrement morts pour rien. Enfin, en attendant, on n'a pas le droit quand même d'oublier ça. Il est bon qu'une fois par an, pendant une minute, ne serait-ce qu'une minute, on regarde un monument aux morts, puis on dise, bon, il y a quand même des gens, hein, vous avez vu en France, dans nos églises, tout ça, les listes de gars de 20 ans qui sont morts. Il est bon, même si c'est des gens qu'on ne connaît pas, si c'est nos grands-pères et tout, de dire quand même, c'est des gens qui sont morts pour la France. Parce que mourir, c'est... Même s'ils sont morts pour rien, ça, ils ont quand même... faut qu'on pense à ça. Et c'est ça, justement, qui fait un pays, vous voyez, qui fait une civilisation, qui tient les gens sur ça. Quand il n'y aura plus de... Je vous dis, quand l'autorité des gendarmes, l'autorité des églises, l'autorité de l'armée, ils n'en auront plus d'autorité. À ce moment-là, les gens sont libres à eux-mêmes.
À votre avis, qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là?
Qu'est-ce qui se passerait?
Oui.
Eh bien, disons qu'il ne se passera rien, parce que les gens ont quand même toujours Ils ont quand même toujours une âme, quelque chose dans le fond de leur âme qui les pousse vers quelqu'un, ou qu'est-ce que. Il y aurait toujours un quelqu'un qui gueulerait plus fort que les autres pour les. Que ce soit n'importe quelle tendance ou quoi. Et qui aurait toujours et qui les attirerait toujours.
Qu'est-ce que vous pensez de l'enseignement du latin à l'école?
Ben enfin, moi j'ai eu une éducation primaire. L'enseignement du latin. Ça, j'ai aucune idée là-dessus. Dans le sens que si c'est utile ou.
Oui.
Je crois que ça doit être utile dans le sens que je crois que il y a plusieurs langues où le latin est quand même à la base de ça, non? Enfin non, ça je peux vous dire. Enseignement du latin. Pas d'idée là-dessus.
Et vous, par exemple, vos enfants, dans quelle matière vous aimeriez qu'ils soient forts à l'école?
J'ai jamais beaucoup pensé à ça. D'abord, j'accorderais pour énormément de crédit, même si ce serait pour les premiers. Ça. Parce qu'à l'école, j'ai connu des gars qui étaient forts en tout. Je les revois maintenant, ils ont des situations tout à fait. Et à côté de ça, j'en vois d'autres, même des gars qui étaient des cancres. Qui ont réussi très bien, des gars, des copains d'école. Ça dépend. Enfin, j'aimerais bien qu'ils soient forts en orthographe. Et puis en. Des choses comme. On appelait ça des analyses, mais en composition, des choses comme ça, oui. Qu'ils aient un peu d'imagination, qu'ils puissent tourner un petit papier, quelque chose, ça me plairait.
À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'il y ait certains enfants qui réussissent à l'école et d'autres qui réussissent pas?
Qui réussissent à l'école?
Oui.
À l'école?
À l'école, uniquement.
Bon, il y en a qui, c'est la paresse.
La paresse.
Oui. Nous, on avait un instituteur qui avait fait. Il avait été pendant 10 ans officier de Légion. Eh bien, je vous prie de croire qu'il fallait vraiment que le gars, quand il voyait un gars qui était paresseux, il arrivait à en faire. Pas un crack, mais il arrivait à faire rentrer des choses. Et je crois qu'il n'y a pas de secret. Le gars, les premiers, c'est qu'ils en mettaient un rayon quand même. Il y a certainement des gars qui avaient plus de facilité que d'autres. C'est certain. Mais enfin, la facilité, parce que il y a évidemment des phénomènes qui retiendront un truc du premier coup. Ça, évidemment. Mais enfin, dans le gros du. Celui qui n'y arrive pas, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de mal. Et celui qui y arrive, c'est parce qu'ils s'en donnent.
Et d'après vous, jusqu'à quel âge il faudrait que les enfants aillent à l'école?
Oh, pas trop tard. 16 ans, ça me paraît. Enfin, l'école primaire, vous parlez?
Non, en général. Enfin, jusqu'à quel âge un enfant devrait aller à l'école, d'après vous? À quelqu'un, quoi.
Oui, mais ça dépend s'il est disposé pour ça, si ça lui plaît aussi. Oui. Disons l'école primaire à 16 ans, puisque 14 ans. L'école primaire à 16 ans, pour qu'il ait quand même. Il faudrait qu'il sache une langue. Puis après, ben, suivant ses capacités.
Vous pensez que ceux qui n'ont pas beaucoup d'aptitudes à ce moment-là devraient arrêter ou
ah oui,
pourraient les faire
ah
continuer
oui.
absolument
ah non. Non. Ah non. Non. Ah non, ça. Je crois qu'ils devraient le faire d'eux-mêmes, et souvent c'est le tort des parents de vouloir faire de leur gosse des génies à tout fin. Non. Ouais, c'est un tort. Bon, l'école primaire à 16 ans, puis après arrêter quand ils voient que qui plafonne, quoi. C'est moi, en études secondaires, je peux pas parler, j'en ai pas fait. Mmh. Et ça me répond plus du tout.
Ah bon?
Ah non, non.
Ah oui, pourquoi?
Ah, absolument pas. J'ai poussé un soulagement. Un soulagement quand je. Quand j'ai passé mon certificat d'études et que je suis sorti premier du département sur 750 élèves qu'on passait, avec 97 sur 100 au certificat d'études.
Alors justement, pourquoi ça vous plaisait pas, parce que vous étiez premier?
Ça me plaisait pas, je sais pas. Je sais pas, j'avais qu'une hâte, c'était de travailler. Parce que... Il y a des gens, enfin, à mon avis, c'est beaucoup plus dur d'être étudiant, hein, que de faire un travail. Le gars qui veut y arriver, quoi. Je parle pas des pseudo-étudiants que je connais. Mais le gars qui veut y arriver, ben, c'est beaucoup plus dur d'être étudiant, le travail de intellectuel que le travail manuel. Alors j'étais un peu paresseux aussi. Puis je sais pas, ça me plaisait pas. J'avais qu'une heure, c'était de travailler. Je comptais les mois pour... C'était le délire.
Ah oui, c'est pas
vrai. Ah ouais.
Mais est-ce que vous pensez qu'il est bon que quelqu'un soit fort à l'école, ou bien... Ça n'a que des avantages, ou bien... Est-ce que ça a des inconvénients?
Bah, il est toujours bon qu'il soit le meilleur pour les autres, c'est sûr, ouais. Qu'il soit fort. Ouais. C'est encourageant pour tout le monde. Ouais.
À quel âge?
3 ans.
Et est-ce que vous pensez que les filles devraient faire autant d'études que les garçons, par exemple?
Oh oui. Oui. Oui, je pense. Ça. Parce que justement, une femme, elle peut... De par sa constitution, elle serait plus apte à faire un travail intellectuel dans la vie. Qu'un homme. Eh bien, parce qu'une femme, disons qu'on parlait des femmes qui travaillent tout à l'heure, ben je vois mieux une femme travailler dans une chose administrative, dans une chose de où elle aura besoin de toutes ses connaissances intellectuelles, qu'un homme qui n'en aura même besoin et qui pourra plus travailler à des choses plus dures, des travaux plus durs. Et justement, on parlait des femmes qui travaillent, une femme, ce qui est moche, c'est quand une femme fait le travail d'un homme. Disons que... De par sa constitution, je vois mieux une femme travailler dans les choses de bureau, administratif. Ou... Mm-hmm. Ouais, vous voyez, par exemple, moi, mes enfants, je pousserais peut-être plus ma fille que mon garçon à l'école.
Ah bon?
Ah oui.
Vers quoi vous orienteriez?
Parce que pour un garçon... Enfin, de mon point de vue d'où je suis là, de mon entourage et tout, même encore à l'heure actuelle, je vois pas l'avantage qu'il aurait d'avoir des connaissances pour arriver dans la vie. Alors qu'une femme, moi.
Elles auraient davantage besoin de faire des études.
Bah oui, pour avoir un travail moins pénible.
Qu'est-ce que vous voulez lui faire faire à votre fils?
Bon, si ça lui plaît, qu'il prendra la succession de moi.
Et la fille?
Et les filles, elles font quelque chose qui leur plaît, son mari, puis elles font tout à fait... Leur mari fait tout à fait le contraire de ce qu'elles font. Ouais. Les filles qui vont poursuivre des études brillantes jusqu'à 22 ans, puis vont se marier. J'ai encore un exemple, une femme... Il s'est marié comme ça avec un maraîcher de la région. Il est en train de divorcer d'ailleurs à l'heure actuelle. C'est le mariage qu'une femme, un homme, il va continuer sa voie, tandis qu'une femme, le mariage, ça va être souvent ça va stopper sa vie individuelle.
Pour revenir à l'île d'Orléans, est-ce que vous trouvez qu'on fait assez pour Orléans, pour les gens d'Orléans?
Pour les gens d'Orléans?
Oui.
Je pense. Ouais, je pense que c'est... Ils ce moment, on fait pas mal. Il n'y a qu'à aller voir dans d'autres villes pour se rendre compte que Orléans, aussi bien au point de vue égard des citoyens et à tout point de vue, c'est nettement supérieur aux autres villes. Prenez Orléans après la guerre, moi qui ai connu ça, qu'on allait jouer dans les ruines par là, vraiment, il y a toujours eu des municipalités très bien à ce sujet-là. Il y a des beaux espaces verts, des très dynamiques, qui font des logements, des choses comme ça. Évidemment, on en fait toujours jamais assez. Mais il faut voir les autres villes, même les villes à l'étranger et tout. Je crois qu'Orléans, ça pourrait être cité en exemple. Vous voyez pas?
Oui. J'ai l'impression qu'il y a déjà un moment que je suis là et je trouve que c'est très dynamique.
Pas l'esprit des Orléanais, je ne parle pas de ça, je parle de la propreté de la ville, des maisons, l'urbanisme. En urbanisme, il y a beaucoup de choses qui sont faites. La rue Royale qui a été refaite après la guerre, c'est quand même un site en modèle, toutes ces arcades, tous les boulevards, les choses. Il y a Orléans, il n'y a plus de trottoirs, il y a tout à l'égout partout, tous les trottoirs sont goudronnés. Il y a toujours des... On pourrait toujours faire mieux, mais enfin, dans l'ensemble, ça pourrait être cité en exemple.
Et les Orléanais, qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, j'y suis. D'après les étrangers, qui paraît qu'on est des gens assez spéciaux. Il paraît qu'on est, rébarbatif. Enfin, moi j'y suis Orléanais, personnellement je me plais. Je trouve que les Orléanais sont pas tellement communicatifs, mais quand on est Orléanais, qu'on est dans le milieu, ça va. On a des rapports tout à fait normaux. Je préfère ça que les gens des méridionaux qui sont tout plein exubérants, tout ça, puis qui vont se charger au maximum quand le bord a le dos tourné. Vous connaissez l'histoire de Marius et Fanny et tout ça.
Oui.
Quand il y en a un qui est pour là, il parle à tort à travers. Alors que Orléans, c'est un peu une ville du Nord. Oui. Et il y a Blois qui est Tours, qui sont à tout près d'ici, et il paraît que c'est le jour et la nuit. Les gens, c'est tout à fait le contraire des Orléanais, ils sont beaucoup plus rigolos, quoi. Mm. Enfin, je vous dis, j'y suis. Moi, c'est entendre dire les gens qui sont étrangers à Orléans. Mm. Ça, personnellement, je...
Vous avez l'occasion de voyager un peu
autour de Orléans?
Oui. Vous allez à Tours de temps en temps ou...
Ah oui. Paris, à Tours. À Blois. Partout.
Fréquemment, enfin vous déplacez.
Fréquemment, ouais. Les lundis, tout ça.
Ça c'est pour les Anglais, parce que vous savez que les bandes sont envoyées en Angleterre, et puis
oui.
Que les professeurs s'en serviront pour faire comprendre les habitants, etc. On a beaucoup parlé des événements de mai dernier. Eux n'étaient pas là en France, évidemment. Est-ce que vous pourriez expliquer, enfin pour les Anglais, ce qui s'est passé?
Oui. Bon. Nous, d'Orléans, c'est pareil, les gens sont tellement réservés qu'ils ne savent pas passer grand-chose à Orléans.
Mm.
Hein? Mais dans l'ensemble, on a parlé de révolution, mais c'est pas du tout... Je sais pas si vous étiez au mois de mai, mais enfin, c'est un mot qui est vraiment usurpé. Disons que c'était une surprise un peu générale, c'était... Personne n'y croyait vraiment. Il y a quand même eu des limites qui n'ont pas été dépassées dans la violence. Les gens, ils ont toujours gardé un minimum de raisonnable pour ne pas aller au-delà de ce qu'il ne fallait pas faire. Ça a surpris tout le monde. Hein. Mais moi, je ne vois pas. Oui, à la télévision, souvent, on voit des choses aux États-Unis, tout ça, des villes qui brûlent, des policiers qui tirent au fusil sur les gens, tout ça, il n'y a rien de ça, vraiment, là. Et tous ces gens qui manifestaient, en groupe, ils étaient tout plein exubérants, prenaient les rapparages, je suis sûr que c'est des gens comme vous et moi. C'était presque une farce, à mon avis. Un jeu.
Un jeu.
Presque, pour certains, oui. Pour certains, je suis sûr qu'il y en avait certains qui étaient glissés dans les manifestations, des jeunes, qui faisaient ça par bravoure, par gloria, histoire d'aller démolir le flic. Ou... Mais je ne vois pas vraiment là, dans les événements de mai, un désir profond des Français pour faire la révolution, absolument pas.
Et à votre avis, comment c'est arrivé, enfin, comment c'est possible?
Eh bien, c'est arrivé parce que il y a eu quand même des gens qui parlaient bien, qui ont trouvé un terrain favorable dans le fait du mécontentement des gens. Et les gens, ils ont commencé à manifester, et ils ont été tout surpris de voir de voir qu'ils étaient suivis, vous voyez. Disons qu'il y a, il y a quand même eu des meneurs, des meneurs, qui ont trouvé un terrain favorable dans le mécontentement d'une société, des gens qui étaient quand même... Ils ont exploité un mécontentement qu'ils ont essayé de détourner pour en faire une révolution, mais que c'était que du mécontentement, pour des raisons d'ordre différent. L'étudiant était mécontent d'université, l'ouvrier c'était pour des questions de salaire, c'était pas pour ça qu'il voulait refaire une société. Comment on appelle ça, ils ont exploité le mécontentement de gens, et ils ont été surpris par eux-mêmes de voir qu'ils étaient suivis. Sûr, personne ne s'attendait. En plus de ça, le gouvernement, il n'était pas plus que les syndicats ou que les choses, les dirigeants étaient avertis de ces choses-là. Vous voyez, le ministre de l'Intérieur, tout ça, ils ne doutaient pas du tout qu'il y avait... D'habitude, des choses comme ça, ça se sent. Alors que là... Enfin, disons que, en gros, il y avait quand même un terrain favorable, c'était vraiment un moment propice, et c'est ce qui a enfin entraîné ce déferlement de gens dans les rues, mais qui aspiraient pas tellement, je veux dire. Parce qu'on l'a vu le jour où il fallait mettre un bulletin dans l'urne, ils n'étaient plus tellement révolutionnaires. Je crois que le gouvernement a bien fait de faire d'ouvrir des élections à ce moment-là. Il y aurait eu vraiment un courant révolutionnaire, ça aurait changé.
Est-ce que d'après vous, il y a des différences entre les classes sociales à Orléans? Est-ce que vous croyez que... Si elles existent, elles sont marquées, ou bien est-ce qu'elles sont peu importantes, ou est-ce qu'elles n'existent pas, en fait, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
En France, Orléans, oui. Elles sont moins marquées que dans les pays que j'ai eu l'occasion de visiter. Moins marquées qu'en Espagne, moins marquées qu'en... Il y a certainement des différences, mais dans le... Vous voyez les gens dans la rue, de par leur manière de vivre, tout ça, faut pénétrer dans leur intimité pour voir la différence. Sur ça, dans leur comportement, je ne crois pas qu'il y en ait.
Et dans leur intimité, alors, qu'est-ce que vous voyez comme différence? Par exemple.
Dans leur comportement?
Dans leur intimité, enfin.
Dans leur intimité, c'est leur train de vie, disons. Si vous rentrez chez eux, si vous voyez le... Si vous rentrez chez le gars qui a un HLM, il peut avoir une très belle voiture à la porte, avoir le même... Vous le voyez dans les mêmes restaurants qu'un grand patron, ça donnait au même loisir. Mais il n'y a qu'après. Mais sans ça, je ne crois pas que De visu, comme ça, on peut distinguer. Évidemment, il y a toujours des flambeurs. Mais.
Qui vous appelez les flambeurs?
Bah, c'est les gens qui aiment faire voir leur argent, quoi. Et qui sont pensés, ils sont souvent ceux-là qu'on a le moins. Et à côté, il y a un monsieur là, qui c'est certainement l'homme le plus riche d'Orléans. Et bien, vous le voyez partir avec ses deux chevaux. Faut vraiment le savoir. Ah oui, oui. Je vous dis de. Non, je crois pas qu'il y ait beaucoup de. Vous dites de différence entre les classes sociales de l'Orléans. Vous en pensez?
Oui, je sais pas, je connais pas.
Vous allez voir les gens comme ça.
Oui. Pas énormément. Non.
Les gens sont habillés pareil, ils ont les mêmes voitures, ils ont les mêmes loisirs, ils ont oui.
Et qu'est-ce que vous pensez par exemple de cette personne qui est riche et qui se promène en deux chevaux?
Moi je trouve ça mieux que quelqu'un qui n'est pas très riche et puis qui roule dans une superbe voiture.
Oui.
C'est d'une sorte de pudeur.
Oui.
C'est comme une fille qui est très belle et qui va se promener en pull chaussette et mini-jupe, ça choque.
Oui.
Alors que vous en voyez de très belles qui sont habillées sobrement. Et...
Oui.
Font pas l'étalage de leur. C'est de la pudeur.
Qu'est-ce que vous verriez comme groupe en Orléans, comme groupe sociaux différent?
Ah ben si, il y a quand même, disons, les. Dans le groupe sociaux, il y a les commerçants. Il y a les fonctionnaires, il y a quand même un petit milieu de, disons, de cadres supérieurs, vous voyez, hein, que l'on voit les cadres supérieurs, oui, que l'on voit beaucoup mêmes endroits où on est même pâtisserie, tout ça, vous voyez, c'est vraiment un milieu. Alors il y a les commerçants, il y a ces gens-là.
Qui sont fonctionnaires, en général.
Souvent, oui. Les codes de l'EDF ou qu'on est en situation. Oui, fonctionnaires. Ils vont dans les mêmes tennis, ils font les quittations, des choses que les commerçants ne fréquentent pas tellement. Et puis il y a l'ouvrier, disons l'ouvrier moyen, qui n'est pas tellement différenciable de visu de ces gens-là, quoi, que je vous dis qu'il est habillé pareil, il a les mêmes voitures, il a à peu près les mêmes loisirs, une moins grande échelle peut-être. Il fréquente les mêmes cinémas, les mêmes restaurants. Puis il y a quand même les ouvriers qui sont, comment appeler ça, le prolétariat. Voilà, disons.
Et vous voyez qu'il y a quand même une différence entre les commerçants, par exemple, et les cadres supérieurs.
Ah oui, je fréquente pas beaucoup. Le commerçant, cadre supérieur, vous voyez, il fera ses week-ends, il fera de l'équitation, il fera du tennis, il fera des choses comme ça. Que les commerçants, on les retrouve le lundi dans les restaurants aux alentours, ils aiment la bonne chère. Ils ont des conversations plus terre à terre, ils n'ont pas du tout les mêmes aspirations.
Vous, par exemple, dans la boutique, là, est-ce que vous pouvez, quand un client, vous pouvez le classer socialement ou bien... Est-ce qu'il se comporte de façon différente d'abord?
Ah oui, oui.
Oui. Vous pouvez décrire un peu les groupes sociaux, là, comment ils se comportent quand il y en a.
Bah, le commerçant, il est très souvent très tolérant.
Oui.
Quand il y aura quelque chose qui sera pour bien, il viendra vous le dire en douce dans le tuyau de l'oreille. Hein, le plus insupportable, c'est sûrement le code supérieur. C'est le gars qui voudra laisser passer sur rien. Vous voyez, le moins qu'il paye, il veut être servi il va être servi, il veut pas savoir. Ils sont assez intransigeants, surtout. Et puis, la meilleure clientèle, c'est la clientèle de l'ouvrier. Bien, parce que c'est la meilleure clientèle, c'est les gens les qui apprécient le mieux les. Par exemple, vous prenez un cadre supérieur, il trouvera, on lui fait quelque chose de vraiment bon qu'on va passer une journée dessus, il vous dira pas que c'était bon. Et moi qui l'a payé, lui c'est normal que ça soit bon. Vous voyez le. Alors qu'un ouvrier, il vous dira si c'est bon, il vous le dira. Puis ça, il reviendra, c'est.
C'est pas bon.
Il vous le dira aussi. Enfin, il viendra quand même. Alors que l'autre, il vous dira rien, puis vous le voyez plus. Mais c'est tout à fait différent. Ils vont chez leur femme, va chez la coiffeuse à la mode. Vous voyez, alors, elle va chez le pâtissier à la mode, elle va chez le magasin à la mode. Il y a une couturière dans le vent à l'heure actuelle, bon ben, toutes ces dames, ils galopent là-bas.
C'est quoi, c'est qui?
C'est Elsa, en ce moment, j'entends Elsa. Ça par ma femme. Ouais. Enfin, ça, c'est un peu toutes les femmes. Ouais. Mais disons qu'ils sont d'une intransigeance cassante.
Les fonds d'Hermar, par exemple, ou pas?
Bon, ça dépend, mais beaucoup, oui. Les femmes surtout. Oui. Ouais. Ils sont même souvent ces gens-là. S'ils n'ont pas, ils n'ont pas le. Je vous dis, eux, ils payent et ils n'ont pas le. Ils n'ont pas la conscience du travail qu'il faut faire pour par exemple un costume ou des choses comme ça. Ils ne voient pas le boulot du gars. Eux, ils payent, ils payent cher, ils veulent avoir quelque chose de parfait. Il y en a qui en profitent, je vous dis, ça dure pas longtemps là. Comme je vous disais, il y a la coiffeuse qui est dans le vent, on craint. Tout le monde se précipite là.
Et quelle est la clientèle qui est la plus fidèle après?
Bah, je vous dis, la clientèle de l'ouvrier, la clientèle du quartier.
C'est la plus fidèle.
Ah oui. Ouais. Les gens qui apprécient les choses à leur valeur. Les gens du quartier, le clientèle de l'ouvrier. Pour ça, vous avez bien, je vous dis, un commerçant, il peut être dans le coup pendant un petit peu. Je vous dis, vous avez un exemple, une coiffeuse qui est en vogue. Alors là, à ce moment-là, toutes les dames iront, mais s'il y en a une autre qui se remonte après, qui va reprendre la vogue, paf, toutes les autres vont déserter.
Et ça, les ouvriers, ils sont pas du tout dans le.
Moi.
Ils ne jouent pas ce jeu-là.
Moi. Mmh. Moi. Mmh.
Je retourne à droite parce que.
Oui, alors ça c'est pour l'université aussi, ça intéresse spécialement les étudiants. Est-ce que chez vous il y a un dictionnaire?
Oui, le Larousse familial.
Est-ce que c'est quel genre de Larousse?
Le Larousse. Oui, le Larousse familial. Quoi.
Ouais. C'est un volume?
Oui, un gros, un seul volume.
Il y a 2000 pages en tout cas, comme ça.
Oui. Ouais.
Où est-ce qu'il est chez vous? Où est-ce que vous le mettez?
Dans la cuisine, dans la salle à manger, parce que il est à portée de la main, et quand il y a un mot qu'on bute, quelque chose, là, qu'on a souvent.
Est-ce que vous vous souvenez depuis quand vous l'avez?
La semaine dernière, je crois, j'ai regardé. C'était pour la semaine dernière.
Vous vous souvenez pourquoi ou pas?
C'est pour chercher un mot. L'orthographe d'un mot, je crois.
Et est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que vous l'avez acheté? Enfin, quand est-ce que, depuis quand vous l'avez...
Ben, c'était c'est le dictionnaire de la famille qui est resté à la maison. Il y a, ouais, on l'a acheté en 51, 50-51.
Vous vous souvenez de l'occasion ou pas?
Non. Ouais, c'était pour ma soeur.
C'était vos parents qui l'avaient acheté,
oui,
votre soeur?
Oui.
Et finalement, c'est vous qui l'avez vu?
Ouais, oui, il est resté là. Ouais.
Pourquoi votre soeur n'avait plus besoin? Comment ça s'est passé?
Ma soeur s'est mariée, elle est partie. J'avais deux soeurs, elles se sont mariées toutes les deux.
Et elle, elle l'avait eu à quelle occasion?
Eh bien, parce que c'était pour faire ses études scolaires. C'est tout.
Elle était à quel niveau ses études quand
elle était gamine, parce qu'elle avait fait une instruction primaire aussi. Elle avait une dizaine d'années. Mes parents lui avaient payé ça pour...
Que j'en ai un examen ou ce métier de... Oh, c'est dépassé.
Non, 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 à l'occasion de rien. Non.
Et maintenant, chez vous, qu'est-ce qui s'en sert le plus souvent?
Oh, c'est moi.
C'est vous?
Ah oui.
Vous en servez à peu près tous les combien? Deux fois par mois.
Ouais.
Et le plus souvent, c'est pour chercher quel genre de choses?
Bah, souvent l'orthographe, un mot ou alors la signification.
Oui. Vous avez une encyclopédie ou...
Non.
Est-ce que vous pensez que c'est utile d'avoir un dictionnaire?
Ah oui, oui. Oui. Oui.
Pour expliquer surtout pourquoi.
Pas pour ça, pour la signification d'un mot ou l'orthographe d'un mot.
Et une encyclopédie, est-ce que vous trouvez que c'est utile?
Ben oui, c'est toujours utile. Ça dépend de l'usage que l'on en fait et la personne qui le possède. Disons que c'est un dictionnaire plus complet.
Oui. Et vous, pourquoi vous n'en avez pas acheté? J'ai vu que vous avez beaucoup de livres.
J'en ai pour éprouver le besoin.
Est-ce que vous possédez des dictionnaires du genre Larousse ménager, des choses comme ça? Larousse médicale, Larousse gastronomique.
Non, non. Oui, on a des livres de cuisine. Il y a... Non, non, il n'y a rien de...
Est-ce que vous avez des livres sur... Par exemple, l'art de parler, l'art d'écrire, l'art d'écrire des lettres, les difficultés langue française,
non.
Ou bien l'art du genre guide de politesse, de savoir-vivre,
non.
Comme ça.
Non, mais ce sont des choses que j'ai souvent l'occasion de lire dans les hebdomadaires, parce que je lis pas mal d'hebdomadaires, je lis peut-être bien une dizaine par semaine. Ce sont des choses qui sont couramment traitées dans ces hebdomadaires-là.
Est-ce que vous pensez que c'est utile, par exemple, des livres de ce genre-là, sur l'art de parler, l'art d'écrire, des lettres?
Oui, c'est très utile. Bon, enfin, oui, oui.
Et les guides de politesse, par exemple, et de savoir-vivre, est-ce que vous trouvez que c'est utile?
Oui. Enfin, moins.
Moins.
Politesse, ça s'apprend, ça peut s'apprendre ailleurs que dans les livres. C'est souvent plus de la politesse, après c'est du savoir-vivre.
Oui.
Les détails de comment mettre une table ou des choses comme ça,
oui.
Qui sont perceptibles vraiment qu'à des gens qui... Ça, disons, dans la... La politesse normale, ça s'apprend ailleurs que dans les livres.
Oui. Et savoir-vivre, vous trouvez enfin, des livres, des guides de savoir-vivre.
Enfin, un peu superflu.
Un peu superflu.
Enfin, surtout dans mon milieu. Il est bon de savoir ces choses-là, par exemple.
Oui.
Si on, un jour on se trouve dans un autre milieu, qu'on est en vacances, tout ça. Voilà.
Dans le journal que vous lisez habituellement, il y a une rubrique sur le langage ou...
Oui, il y en a une dans l'Express. Enfin, je ne la lis pas.
Je ne la lisais pas.
Ça fait partie d'une rubrique barbante.
Ah bon? Vous faites des mots croisés?
Non.
Pourquoi?
Je fais pas beaucoup de temps. Et puis, je trouve ça long. Je trouve ça long et des fois j'en fais, mais
bon. Vous en avez parlé tout à l'heure du latin à l'école. Vous m'avez dit que enfin vous n'avez pas
d'opinion. J'ai pas d'opinion.
Et qu'est-ce que vous pensez du franglais?
C'est pas mal.
Hein?
Ça permet d'imager un peu les termes qui sont pas tellement descriptibles en langue française. C'est bien. C'est un peu du méridional, vous voyez, c'est quelque chose de. Le sexe s'appelle, des choses comme ça, ben, je ne vois pas comment on pourrait dire ça en français. C'est bien, moi je suis. D'ailleurs, c'est un fait, c'est pas. On ne peut que le constater, donc que ça. Ça a bien pris, quoi, quand même.
Et vous, personnellement, vous êtes plutôt favorable enfin...
Ah oui, oui, oui.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a des différences dans la façon de parler des gens qui appartiennent à des groupes sociaux différents?
Ah oui, oui.
Oui,
ah oui, oui.
Est-ce que vous trouvez que les différences sont très importantes?
D'ailleurs, tiens, j'ai oublié de le dire,
oui.
C'est souvent là qu'on voit... C'est pas l'apparence, c'est la manière de parler. On voit et les groupes sociaux, et le niveau d'instruction de la personne.
Et vous pensez que les différences sont très, très importantes?
Ah, je pense.
Et à votre avis, elles portent sur quoi surtout?
Eh bien, une personne qui a beaucoup d'instruction, il ne butera pas sur les mots, il trouvera toujours le terme qu'il faut, exactement pile, pour décrire une situation ou quelque chose comme ça. C'est beaucoup, la conversation est beaucoup plus nette, beaucoup plus précise.
Comment vous les expliquez, ces différences, de ce qu'elles viennent?
Bien, je vais vous le dire, parce qu'il y a des gens qui savent mieux ce que parler veut dire, c'est une meilleure instruction, et qui savent s'en servir, qui savent se servir de ce qu'ils ont appris.
Est-ce que
je suis sûr que quelqu'un qui est instruit, il peut se servir du double de mots, une personne qui est... Il y a des gens qui ont un vocabulaire... très limité.
Oui.
Alors je ne parle pas de l'accent, qui est connu en France, on dit quelqu'un qui est snob, on leur connaît un certain accent. Hein? On peut reconnaître les gens pour mal, oui. Les intonations qu'ils donnent à une phrase, ou des choses comme ça.
Et d'après vous, est-ce que les différences, enfin, est-ce que les plutôt les gens parlent de mieux en mieux, de plus en plus mal ou sans changement?
Et moi, je veux dire, quand je vois des films, je ne sais pas si les gens parlaient comme ça il y a une centaine d'années, c'est vraiment d'un français qui est admirable. Si on voit des films qui se passent, des films de KPDP, c'est vraiment, moi je suis en admiration devant ça. Alors à l'heure actuelle, je crois certainement que tout le monde ne parlait pas comme ça, mais vis-à-vis de ce français-là, on parle de moins en moins bien. Les gens cherchent les sources faciles, mais on pourrait parler beaucoup mieux. Ce serait d'ailleurs beaucoup plus joli aussi.
Et vous trouvez qu'on parle de plus en plus mal alors plutôt?
Bah, plus en plus facilement, oui. On emploie de moins en moins de mots.
Parmi les personnes que vous connaissez, est-ce que vous voyez celle qui parle le mieux? En français, hein, le meilleur français, quoi.
Oh ben, ce sont les étudiants.
Les étudiants,
quoi. Ah, oui. Les étudiants qui sont vraiment en études secondaires, ah oui, là c'est ceux-là, hein, qui parlent le mieux, sûr.
Et parmi les gens que vous connaissez pas et que vous êtes amené à entendre, par exemple, je sais pas, est-ce que vous voyez des gens, enfin, dont vous admirez des gens qui parlent vraiment très bien le français?
Les gens qui ont des beaux parleurs, les avocats, Non, je vous dis, je crois que à l'actuel, les gens, ils cherchent la facilité le plus possible. On se creuse pas la tête, C'est un peu une paresse du langage.
Est-ce qu'il y a en France un organisme qui décide si un mot fait partie du bon français ou pas?
Ah oui, bien sûr. Ça s'appelle le... Ça s'appelle l'Académie française.
Est-ce que vous pensez que son rôle est utile?
Ah, très utile.
Très utile.
Nécessaire.
Et on dit quelquefois que, sans parler des gens, on dit quelquefois que la langue française se dégrade de plus en plus. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que oui.
Je pense que oui.
Surtout dans la pratique.
Oui.
Dans la pratique, oui. Considérablement. J'en reviens, je vous dis, à des films qui emploient le langage d'il y a 100 ou 200 ans. C'était vraiment admirable. Oui.
Et vous, personnellement, vous le regrettez ou pas?
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, à votre avis?
L'éducation. Si je vous disais que les étudiants parlaient mieux que les autres.
Oui.
Et puis faire découvrir aux gens des mots qu'ils n'ont plus l'occasion d'employer. Et qui serait très utile dans la conversation. Des mots qui sont qui ont disparu des conversations et des écritures et tout. Et il y en a combien comme ça? Où l'on retrouve ces mots-là? C'est chez les notaires. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des actes de notaire.
Oui.
Vraiment, il y a un Français, un peu plus riche, parce que justement, à mon avis, il est resté tel qu'il était.
Est-ce que vous seriez favorable, par exemple, à ce qu'on oblige les speakers de la radio, de la télévision, ou les professeurs, ou les journalistes, enfin, à employer un bon français?
Oui. C'est-à-dire, pour certaines émissions, oui. Et ça permettrait aux gens d'apprendre de réapprendre des mots qu'ils en avaient perdu l'usage. Qui serait séduit par une belle conversation. Moi, à mon avis, moi je suis séduit par ça. Et une belle conversation, à l'heure actuelle, la radio, la télévision, tout ça, on se complaît dans une facilité de langage. Qui est certes amusante, vous voyez, qui est délassant, mais qui rime à rien du tout, et qu'on devrait tolérer ça sur une petite partie d'émission, vous voyez, de rigolade, mais quand c'est à journée entière, sur les chaînes de radio, les animateurs humoristes, ils en font de trop, quoi.
Est-ce que vous seriez donc très favorable ou simplement favorable à ce qu'on contrôle enfin la presse écrite et parlée pour...
Ah, très favorable.
Et à votre avis, comment on pourrait s'y prendre enfin, quel type de contrôle on pourrait utiliser?
De donner le plus d'audience possible à des speakers qui ont un très beau parler. Et puis mettre les autres un peu sur la touche. Il y en a des speakers qui parlent très bien. Et d'ailleurs, les speakers qui parlent bien sont souvent les plus aimés du public. Parce qu'ils ont un charme, Et les gens ils respectent, quoi. Ils ont l'impression qu'il est plus savant qu'un autre et ils l'écoutent. Voilà, ils écouteront plus. Les radios gagneront en écoute, certainement.
Et à votre avis, est-ce que l'orthographe, par exemple, est enseignée à l'école aussi bien qu'avant ?
Ça, j'ai pas l'occasion de... Bon, certainement. Vous parlez des nouvelles méthodes pédagogiques?
Oui. Est-ce qu'à votre avis, enfin, d'après les enfants que vous pouvez connaître, et en comparant avec vous quand vous étiez à l'école, est-ce que...
Ça m'a paru un peu bizarre, mais je pense que ça doit être bien.
Oui.
D'après, j'ai mes petits neveux et nièces qui apprennent beaucoup plus facilement, d'après ce que je vois, les nouvelles méthodes. Ouais.
Vous pensez
des méthodes qui paraissaient un peu révolutionnaires au début, mais qui ont du bon.
Oui.
D'orthographe, vous parlez?
Oui, d'orthographe.
Moi, je parle pour apprendre à lire et à écrire, il y a des petits. Oui. L'orthographe, je ne sais pas, je pense que... Je pense pas que ça a tellement changé depuis le temps que...
Oui. Et pour
j'en ai pas connaissance.
Et pour la correction de la langue, par exemple, est-ce que est-ce qu'à l'école, on fait autant attention qu'avant à la correction de la langue? Est-ce que les enfants apprennent un bon français?
Oh, je pense que oui. Je pense, parce que... Oui. Ah oui.
Oui, les enfants que j'ai là, ils bâtissent des phrases, tout ça. Oui. Les conversations que je peux avoir avec les jeunes, je trouve que c'est pas mal.
Vous, personnellement, à l'école, dans quelle matière vous étiez le plus fort?
Bien, je vous dis, dans les... tout ce qui avait trait un peu à l'imagination.
Ah bon, oui.
Tout ce qu'il fallait, oui. On appelait ça des rédactions. Ça, j'étais à l'école primaire. Sur un sujet donné, fallait rédiger un résumé. Ça me plaisait. Et quand le maître lisait ma rédaction, c'était toujours l'attraction de la semaine.
Oh, oui.
Ouais, sans fausse modestie.
Oui, d'accord.
Ça me plaisait. J'avais de l'imagination à rendre. Vous avez des gosses qui butaient, ils savaient pas. Moi, ils me venaient toutes sortes de choses à l'idée. Je bâtissais des phrases, des... J'aimais bien, virgule, point. C'était intéressant.
Et c'était des sujets libres ou comment c'était?
Ah non, c'était un sujet donné par le maître.
Un sujet donné.
On avait le choix entre deux ou trois. Exemple, vous êtes allé vous promener dimanche, vous êtes allé à la campagne, racontez votre sortie.
Mmh.
Voilà, c'était... Alors, et vous aviez des gosses qui avaient du mal à prendre ça en ligne, et puis d'autres qui... Fallait poser ça trop long non plus, parce que pour raconter n'importe quoi, mais enfin, c'était un exemple.
Habituellement, est-ce que vous avez quelque chose sur vous pour écrire?
Non, jamais.
Jamais?
Jamais, j'ai de crayon sur moi.
Et pas de carnet non plus, enfin de papier ou...
Non.
De papier.
Et je me suis toujours dit que si un jour, Dieu m'en garde, il m'arrivait un accident, quelque chose, que je serais obligé d'être à la clinique pour un mois ou deux, j'écrirais un bouquin, que j'écrirais quelque chose. Ça m'est jamais arrivé, j'arrive à 21 ans. Je me dis ça depuis que je sors de l'école. Disons que j'ai pas le temps d'écrire, mais ça me plairait beaucoup. J'écrirais quelque chose pour écrire. La dernière fois où j'ai écrit des choses, c'était pour écrire à une petite amie, disons.
Mmh.
J'aimais bien écrire aussi, ça fait qu'on se faisait des échanges de lettres de plus en plus longs.
Mmh.
Puis on... C'est la dernière fois que j'ai eu l'occasion d'écrire.
Il y a longtemps de ça ou...
C'était avant que je sois marié, je vous passais.
Ouais.
Il y a 5-6 ans. Je lui écrivais des lettres qui avaient du mal à tenir dans l'enveloppe.
Ah bon?
Ouais, des fois je... Des fois le soir, dans mon lit, j'écrivais des fois jusqu'à 1h du matin. Et je crois qu'elle les a gardées.
Et alors malgré ça, vous n'avez jamais quelque chose sur écrire pour vous?
Moi j'avais commencé un truc là.
Ouais.
Moi je l'ai retrouvé l'autre jour d'ailleurs. Puis... J'ai arrêté. J'ai pas le temps. Et sans ça, l'imagination, elle vient en écrivant. Et quand je commence à écrire, après, ça se bouscule et ça vient tout seul. Et ça me plairait. Et je me dis, c'est un jour. Je me dis que j'ai toute la vie devant moi, je sais que j'écrirai quelque chose un jour.
Ouais.
Au plaisir d'écrire, pour moi, comme ça. Et pas autre chose encore, quand je vois, j'achète des bouquins, j'en vois de bons, j'en vois que je ne serais pas capable de faire, mais j'en vois pas mal, que je me dis, certainement j'en ferai autant.
Mmh.
Aussi bien la tournure des phrases que l'histoire qui est racontée. Enfin, je sais pas, des fois ça paraît facile. Et...
Et vous possédez un stylo à encre?
Non.
Vous en avez jamais eu?
Si. À l'école, jamais eu depuis. Pour ma première communion.
Mais depuis combien?
D'ailleurs, à l'école, on n'avait pas le droit de s'en servir.
Ah bon, pourquoi?
À cette époque-là, les écoles primaires françaises avaient une plume qui était agréée sûrement par l'éducation nationale. Non, mais je crois que c'est ça. Oui. Et on avait le droit de se servir que de ce modèle de plume. Parce qu'il reproduisait le plus fidèlement les pleins et les déliés. Chose qu'avait souvent avec un stylo. Ça fait que même les gars qui avaient un stylo, on n'avait pas le droit d'écrire sur les cahiers de classe avec ce stylo-là, fantaisie. Tout le monde avait la même plume.
Mais c'était un stylo à plume ou un porte-plume?
Stylo à plume.
Un stylo à plume.
Ah non, mais je parle de... Oui. Nous, à l'école, c'était un porte-plume.
Oui.
C'était le maître qui donnait les plumes et tout le monde avait la même plume.
Ah, oui.
Les crayons-billes étaient proscrits à l'école. Mmh. Ou alors sur le brouillon. Mais sur les cahiers, il n'y avait qu'une plume. Tout le monde pareil.
Mais par exemple, ça fait combien de temps que vous êtes passé à une instrument pour écrire?
Oh ben, je m'en sers tous les jours. Pour établir des factures, pour remplir des formulaires, des feuilles d'impôt, des déclarations de tout genre.
La dernière fois, c'était aujourd'hui ou hier?
Aujourd'hui.
Et pourquoi vous n'avez pas racheté de stylo? Vous qui aimez bien écrire.
Oh ben, quand j'écris, j'écris avec un crayon bille, toujours.
Ah oui.
Bien que ce soit pas tellement fameux. C'est vrai, le crayon bille, pour l'écriture, c'est pas joli. Nous, le maître, il nous apprenait à faire les pleins, les déliés, les choses comme ça. Mmh. Un crayon bille, on ne peut pas reproduire ces choses-là. Mmh. Même avec ces crayons-là, moi. Le porte-plume avec la plume, une bonne plume, c'est là qu'on a la plus belle écriture.
Et vous serrez de porte-plume quelquefois pour avoir une belle écriture ou...
Non, jamais.
Et par exemple, là, est-ce que vous avez commencé à écrire?
C'était au crayon B.
Au crayon B.
Oui.
Ouais. Si vous aviez à dire quelque chose à quelqu'un qui habite à plusieurs kilomètres d'ici et qui n'est pas le téléphone, est-ce que vous...
J'irai le voir.
J'irai le voir, ah plutôt
oui.
De l'écrire.
Ah oui.
Pourquoi ça?
Parce que je trouve que par l'écriture, c'est trop condensé ce qu'on a à dire. On ne peut pas dire suffisamment de choses. Pour m'exprimer, je préfère la parole, téléphone ou aller voir. Ou alors, je m'en suis aperçu que, justement, quoi, si vous avez une fiancée, vous lui écrivez et vous répond, vous lui écrivez, vous répond, ça n'en finit pas, alors qu'avec la parole, on peut mieux s'exprimer, à mon avis, plus vite.
Et après, c'est pour ça qu'avec l'échange de lettres que vous avez eu avec la Fibonacci, c'est pour ça que ça durait si longtemps, parce que...
Non, parce qu'on avait des choses à se dire qui sortaient tout à fait de l'ordinaire.
Oui.
Et des choses que... qu'on aurait... Sans ça, pour
pour une chose banale de commerce ou de choses comme ça, je préfère y aller et m'expliquer franchement.
Pour un ami, par exemple.
Un ami, un ami, j'écrirai.
Vous écrirez plutôt.
Ah oui.
Plutôt que de vous déplacer, enfin, vous préférez écrire.
J'écrirai pour un ami.
Et si c'est quelqu'un qui vous est supérieur, par exemple, est-ce que vous préférez vous déplacer ou lui écrire ?
À me déplacer ? Enfin... Oui, me déplacer, parce que écrire... toujours un peu la paresse, on est... Pour écrire, il faudrait se casser la tête un peu pour... Alors qu'en y allant, ça simplifie les choses.
À votre avis, est-ce qu'il était important d'avoir une belle écriture ?
Important, non, mais c'est mieux. C'est pas important, mais enfin, si, c'est mieux. Si oui, il m'arrive quand je reçois une lettre, je dis tiens, il écrit bien. C'est toujours agréable d'avoir une belle écriture.
Et si on vous demandait de. Enfin, sur une échelle, par exemple, est-ce que vous trouvez que c'est très important, important, peu important ?
Peu important.
Peu important.
Pour les choses qu'on a à dire, c'est un détail qu'on dit tiens, il écrit bien. Oui, c'est pas important.
Pourquoi ça, simplement un détail ?
Eh bien, c'est comme. Si on apprécie une belle écriture, comme tout ce qui est beau.
Mais pourquoi vous trouvez que ça n'est qu'un détail ?
Eh bien, parce qu'il faut voir. Ce qui est important, c'est la tournure de la lettre. C'est moins important que l'orthographe, par exemple. Dans une lettre, le plus important, c'est l'orthographe, la tournure de la lettre, et puis il me faut l'écriture en dernier.
Et à votre avis, alors même question pour l'orthographe, est-ce que vous trouvez que d'avoir de l'orthographe, enfin, c'est très important ?
Ah oui, très important.
Pourquoi ça ?
Très important. Deux fautes dans une lettre et ça fout la lettre par terre.
Comment ça ?
Ben ça, vous perdez tout crédit auprès de quelqu'un. Je pense que c'est très important. Plus qu'une erreur de langage. C'est peut-être justement les lettres qui sont le dernier bastion de... la langue française. Cela, les gens se creusent un peu les méninges quand ils écrivent à quelqu'un, parce qu'ils veulent, je vous dis, deux, trois fautes, dans même une faute ou deux dans une lettre, ça casse tout par terre.
Vous, personnellement, vous seriez favorable à une réforme de l'orthographe ?
Oh non, non. Non, non.
Vous seriez très défavorable, simplement ?
Oh, très défavorable.
Très défavorable. Pourquoi ça ?
Ouais, parce que l'orthographe, il est très bien comme il est. Très, très bien comme il est. Il se complète bien. Par exemple, un mot qui se prononce pareil, vous voyez, qui s'écrit pareil, de par l'orthographe, un verbe, par exemple, on peut savoir, vous voyez ce que je veux dire ? S'il n'y avait pas de différence dans l'orthographe, non, mais ça, je serais très défavorable à une réforme de l'orthographe.
À écrire à des amis, par exemple, est-ce que c'est d'habitude votre femme ou vous qui écrivez ?
Ben, je, ma femme.
Plutôt votre femme.
Oui.
Et quand c'est dans votre famille à vous?
Bon, c'est moi. Enfin, ma femme aussi écrit. Souvent, par exemple, en vacances, c'est ma femme qui écrit toutes les cartes et moi je signe seulement. Enfin, ce sont des banalités. Mais c'est ma femme qui écrit. Et moi, j'écrirais plutôt pour les choses plus urgentes, vous voyez. Contraires au commerce ou des choses comme ça, à ce moment-là, c'est moi qui écris.
Les feuilles d'impôt, par exemple.
Ah non, c'est la comptable.
Oui, la comptable. Les feuilles de sécurité.
Et ça, j'ai le don de ne rien comprendre du tout dans des formulaires. Non, mais sincèrement. Ouais. Je bute sur des choses et je me demande comment font la majorité des gens pour remplir des trucs comme ça.
Les feuilles de sécurité sociale et de maladie, par exemple.
C'est vrai, on n'est pas en sécurité sociale.
Ah oui, c'est vrai.
Enfin, tout ça, ce serait ma femme qui le ferait.
Ah oui.
Ah oui. On a une mutuelle, là, c'est elle qui s'occupe de tout.
Et vous, alors, personnellement, ce serait plutôt...
Pour écrire tout ce qui a trait au commerce, pour écrire un client ou un fournisseur ou...
Dans la famille de votre femme, c'est elle qui écrit.
Comment?
Dans la famille de votre femme, c'est elle qui écrit, évidemment. C'est elle qui écrit à ses parents, etc.
Ah oui, ah oui.
Et pourquoi, enfin, d'après ce que vous avez dit, là, donc en général, pour les lettres plus personnelles, quoi, en général, c'est elle qui écrit. À quoi ça tient, ça, pourquoi?
Eh bien, parce que moi, souvent, elle tient plus à informer les gens de la famille de... Elle tient plus à informer la famille que moi.
Et pour les amis, c'est la même chose.
Oui, aussi.
Elle tient aussi.
Bon,
est-ce que c'est vous ou elle qui avez la meilleure orthographe?
Bon, c'est pareil.
C'est la même chose?
Ouais, ouais. Des fois, on se corrige mutuellement, ça se vaut.
Quelle est la plus belle écriture?
Ah, c'est elle.
Qu'est-ce que vous voyez comme différence entre son écriture et la vôtre?
Elle est bien ronde, alors que moi, j'écris comme un gosse.
Ah ouais? Et qui parle dans le meilleur français?
Je crois que c'est moi.
Qu'est-ce que vous appelez écrire comme un gosse? Le fait que...
Ben, je parle de l'écriture.
Ouais.
C'est une écriture comme un gosse qui... Comme un gosse de 10-12 ans. Quoi. J'ai pris une écriture d'homme.
Pourquoi qu'est-ce que vous appelez une écriture de gosse?
L'écriture de gosse, c'est les lettres vraiment tout à fait primaires. Ouais.
Mais très régulières ou...
Non, non, non. Les L. Une écriture de court moyen.
Je ne vois pas exactement qu'est-ce que vous voulez dire. Quel type d'écriture c'est? Parce qu'elle n'est pas assez régulière ou...
Oui, c'est pas... Non, mais c'est une écriture de... Vous voyez bien un gosse comment ça écrit. Quand ils s'appliquent, ils font des... C'est pas une écriture d'homme, c'est... Ça... On voit, on dit, tiens, c'est un homme qui écrit, c'est un gosse.
Et qui écrit dans le meilleur français? De vous, de votre femme.
Ah, c'est moi.
Comment elle écrit votre femme, qu'est-ce que vous voyez comme différence entre vous?
Eh bien, elle n'a pas tellement d'imagination. Et puis, elle me demande souvent la tournure de la lettre. L'orthographe est bon, mais elle bute sur des mots et ne trouve pas le mot qu'il faut, ou le français qu'il faut.
Vous, personnellement, par exemple, dans l'année, combien vous pouvez envoyer de lettres? Combien vous pouvez écrire de lettres?
Peut-être une trentaine.
Une trentaine de lettres?
Ouais.
Pour le travail, par exemple.
Sur les 30, il y en a la moitié pour le travail. Qui sont d'ailleurs souvent très brèves et très... C'est les lettres qui sont brèves, quoi.
Et hors du travail, là, c'est plutôt des lettres pour des amis ou pour la famille ou...
Bon, pas tellement pour la famille. Oui, enfin, il y en a un. Mais pour des choses de loisirs qui m'intéressent et que je suis obligé d'écrire pour correspondre avec eux. Par exemple, pour la location, là, ou pour louer l'appartement, là, on était obligé d'écrire quelques lettres. Là, j'ai vendu une moto, il y a eu encore un échange de correspondance. Des choses comme ça.
Est-ce que vous conservez d'habitude des lettres qu'on vous envoie?
Non.
Jamais. Vous ne possédez aucune lettre, vous n'avez aucune lettre chez vous?
Ah si, toutes celles qu'il faut qu'ils soient gardées.
Oui.
Les papiers, factures, des choses comme ça, sans ça. Quand j'en ai pris connaissance, tac tac. Ou alors, je la garde le temps que si j'en ai encore besoin, ou si je me dis, bon, faut que je la garde parce que... J'aurai à en reprendre connaissance après, mais si c'est une lettre qu'il n'y a pas de suite, je la balance.
Et les lettres d'amis, par exemple, ou de la famille?
C'est pareil, ils vont être un petit peu dans un tiroir, puis après... Dire c'est de quand, ça c'est... Oh, c'est d'il y a 3 mois, paf.
Balancer. Et par exemple, l'ami avec qui vous avez une correspondance, vous avez gardé ces lettres ou bien vous les achetez?
L'ami, eux?
Oui.
Oh ben... Je les ai gardés longtemps, mais je crois plus qu'ils soient ici maintenant. Je ne vois plus. On a déménagé 2 ou 3 fois, tout ça. Quoi que disant que la correspondance, elle était un peu en sens unique. Je l'écrivais beaucoup alors qu'elle...
Et les lettres de vos parents, par exemple, vous les gardez pas?
Oui, mes parents, ils habitent là, ils sont toujours ensemble, ils ne crèchent pas. Les beaux-parents non plus, on est tous dans le coin.
Habituellement, quand vous écrivez avec quoi? Avec un stylo à billes?
Oui.
Quand vous écrivez des lettres,
oui,
par exemple? Pour le
stylo
travail, pour le commerce,
oui,
c'est un stylo à billes.
Toujours.
Et il y a vos parents aussi, enfin, il y a des amis aussi.
Oui, oui, toujours stylo à billes.
Et qu'est-ce que vous utilisez comme papier? Parce que les questions, elles paraissent drôles. Mais...
Le papier normal, ouais. Du commerce, je fais pas attention du tout au papier. C'est un bloc standard, normal.
Un bloc de correspondance?
Oui, oui. Avec des lignes. J'aime bien qu'il y ait des lignes.
Pourquoi ça?
Pourquoi là? Pour écrire droit. Tu y vas?
Oui, il est parti, il est venu, alors je suis arrivé.
Il sait où c'est?
J'ai expliqué, quand tu m'as trouvé. Tu me dis que c'était en face de l'article?
Oui, dans le fond.
Oui.
C'est à l'EDF, hein, tu lui as dit?
Hein?
Tu lui as dit que c'était à l'EDF?
Oui. J'ai dit 64
ans. Oh,
Mais vous écrivez sur n'importe quel papier ou bien simplement sur un bloc de correspondance?
Oui, sur un bloc.
Pour des amis, par exemple, ou pour la famille?
Pareil, pareil.
Toujours un bloc de correspondance?
Toujours le même.
Du papier blanc?
Je fais de point d'importance à... Oui. Toujours le même.
Vous écririez, par exemple, sur des sur du papier à carreaux? Ou bien vous voulez simplement des lignes?
Je souhaiterais un A sur des lignes.
Sur des lignes?
Oui, j'aime bien, il y a des lignes. Ou alors, vous savez, ces gros cartons.
Oui.
Que par transparence, ça vous fait les lignes.
Ah oui, d'accord.
Ça m'arrive aussi.
Ah oui, d'accord.
Je vous dis, c'est suivant le bloc que j'achète, à la librairie du coin.
Mais vous écririez, par exemple, sur des papiers à carreaux ou...
Oh non.
Pas sur les papiers à carreaux.
Oh non.
Pourquoi?
Bon, je sais pas. Je sais pas, je trouve que la lettre, ça serait trop chargée, quoi. Il oui. Faudrait que ce soit des petits carreaux très, très fins. Très peu apparent. Bon, sûr, monsieur.
Sur des papiers type papier de. Comme on allait à l'école, vous savez, les carreaux assez grands avec des lignes. Vous écrivez là-dessus?
Non.
Jamais.
Non.
Et quand vous écrivez, est-ce que vous faites la lettre en plusieurs fois, ou bien est-ce que vous faites un brouillon, ou bien est-ce que vous écrivez directement?
Ah oui, un brouillon.
Un brouillon. Pour n'importe qui ou...
Ah, pour tout, je fais un brouillon.
Pour des amis aussi, par exemple?
Pour tout.
Vous faites attention aux fautes d'orthographe.
Comment?
Vous faites attention aux fautes d'orthographe.
Ah oui, oui.
Vous relisez?
Oui, oui. Deux fois. C'est là que j'ai recours au dictionnaire, quelques fois.
Vous écrivez jamais avec un porte-plume pour des...
Non, parce que j'en ai pas sous la main. Ouais. Disons que j'accorde pas d'importance ni au papier, ni à la plume.
Tout à l'heure, qu'est-ce que vous pensez tout à l'heure, on parlait de l'orthographe et... Il y a des gens, en fait, quand on fait passer le questionnaire, etc., qui veulent absolument une réforme de l'orthographe. Et à votre avis...
C'est des gens qui sont peut-être plus concernés que moi de ces choses-là. Oui. Moi, personnellement, étant très loin des choses d'enseignement et tout, je trouve ça bien comme c'est. Oui. À présent, si des gens compétents pensent que c'est peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Oui.
C'est toujours du papier blanc sur lequel vous écrivez ou...
Ah oui.
Ou bien c'est jamais en couleur?
Non, 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 non. Couleur.
Et si vous aviez à écrire à quelqu'un qui vous est supérieur, qu'est-ce que vous feriez? Pour le papier, l'instrument, enfin...
Pareil, une enveloppe blanche. Blanche, neutre. Je prendrais peut-être un papier tout blanc, vous voyez, comme ça, tout blanc, avec la feuille en transparence.
Et est-ce que vous utiliseriez un stylo à bille?
Bah, si c'était important, je prendrais un stylo à plume.
Par exemple, pour écrire, quand vous n'avez pas d'enfant qui aille à l'école.
Comment?
Si vous aviez écrire à l'école, par exemple, pour faire un mot d'excuse ou pour parler à un professeur,
oui.
Ou quoi, qu'est-ce que vous utiliseriez?
Bon, un petit mot, je prendrais peut-être... Je prendrais, je sais pas,
Vous savez, on a des papiers en tête de la boulangerie. Oui. S'il fait que l'instituteur, il verra tout de suite d'où ça vient.
Oui.
Mais enfin, je ferai pas. Je prendrai un crayon bille, monsieur. Enfin, là, je vous dis, moi, j'irai le voir, de toute façon. J'écrirai ça.
Vous allez le voir.
Ah, oui.
Vous n'utilisez jamais de papier à carreaux, hein?
Non.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent dans la façon de parler de votre femme?
Non.
Vous la reprenez jamais, lui.
Non, non.
Et inversement?
Ouais, elle me reprend.
Ah bon? Pour quel genre de choses?
Bah, des... du mauvais français, souvent. Français trop facile, alors elle me reprend. Exemple... je vais au coiffeur, vous voyez, où tu y vas, oui, j'y vais. Ah non, j'y vais. Alors là, elle me reprend pour des choses comme ça.
Ah oui, d'accord. Et lequel reprend l'autre le plus souvent alors? Ce serait plutôt elle qui vous reprend le plus souvent que vous ou elle.
Ah oui, oui, elle me reprend le plus souvent.
Et dans la façon de parler de vos enfants, ils sont...
C'est-à-dire qu'elle me reprend parce qu'elle fait plus attention à des écarts de langage.
Oui.
Parce qu'elle parle moins, peut-être. Elle écoute plus qu'elle ne parle. Et elle est choquée quand je peux faire un écart de langage. Une mauvaise liaison.
Et dans la façon de parler de vos enfants, il y a des choses qui vous choquent, ils sont tout petits. Il est né à quel âge?
3 ans.
3 ans, oui, c'est fait.
Non, non, il n'y a rien qui me choque. Ils sont... oui. Non.
Est-ce qu'il y a des mots que... Qu'est-ce qui s'occupe le plus de la façon de parler de vos gosses? Quand vous êtes tous les deux, par exemple, dans la maison, avec les enfants, qu'est-ce qui est le plus sensible, enfin, qui les reprend le plus souvent pour des questions de...
C'est pareil.
La même chose.
Oui, oui.
Est-ce qu'il y a des mots que vous leur interdirez de prononcer?
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous croyez que vous allez être sévère ou...
Non, mais je... Je crois que s'ils ont... Non, je serais pas sévère, je leur ferais comprendre qu'il y a des mots qu'ils font pas dire, que souvent les gosses, quand ils disent des mots qu'ils font pas dire, c'est par une... parce qu'ils savent pas la portée de ce mot en question.
Mmh.
Et alors...
Vous les puniriez,
non,
par exemple, ou...
Non, je lui expliquerai. Merci. Si qu'on met en lui expliquant, il ne comprendrait pas, à ce moment-là, je serais peut-être obligé de sévir.
Qu'est-ce que vous feriez? Une gifle?
On est obligé de... sévir avec des gens qui veulent pas comprendre.
Mmh.
Ça, ils se corrigent d'eux-mêmes, je pense.
Et vous, quand vous étiez, enfin, quand vous viviez avec vos parents, est-ce qu'ils faisaient attention à la façon dont vous parliez?
Oh, pas tellement. Oui, peut-être, mon père, oui.
Votre père, plutôt?
Oui, plutôt mon père. Mon père a fait des études secondaires. Enfin, vivant à la campagne, d'origine modeste, on n'accordait pas beaucoup d'importance au langage.
Il lui faisait attention à quoi, surtout?
Ah bien, au mot qui, comme vous disiez, qui n'aimait pas entendre prononcer. Et les gros, ce qu'on appelle les gros mots, les injures, les choses comme ça. Jamais à la maison, les choses blasphématoires, ou on appelait ça, moi. Jamais il aurait voulu entendre ça chez lui.
Qu'est-ce qu'il faisait là, quand c'était comme ça?
Ah ben là, je pense que ça se pensait pas, puisqu'on savait qu'il fallait pas le dire. C'est bien.
Vous prenez une licence. Enfin, ça vous est jamais arrivé d'être.
Grossier?
Non, d'avoir. Oui, il aura dit. Ça n'est jamais arrivé qu'il ait pris des sanctions.
Ah, si.
Quand c'était une question de vocabulaire, il était très sévère.
Ah, oui. Ah, oui.
Ça... Faisait, par exemple, vous avez des souvenirs là-dessus ou pas?
Bon, il nous battait pas, mais enfin, il était sévère. Oui. Il se montrait tout de suite, il se manifestait tout de suite. On savait qu'il fallait pas le faire. Et on le faisait pas.
Est-ce que vous avez des souvenirs de quand vous étiez à l'école, de votre institut?
Ah oui, voilà, c'était un personnage haut en couleur.
Un peu, oui.
Haut en couleur et qui était d'une sévérité, je vous dis. Enfin, d'un vraiment des. À l'école, mettons, il présentait 10 grands certificats d'études, presque tous les ans, les 10 étaient reçus. D'ailleurs, c'était une école qui était très recherchée. Il prenait que les gens, parce qu'il ne pouvait pas prendre tout le monde, que les gens qui lui plaisaient. S'il y avait des parents, le maître d'école, ses punitions, c'était la colle le jeudi, très courante, la colle le dimanche matin, et le pain sec le midi. Alors le midi, et ça c'est pour vieux, il y a 10 ans, le midi, le gamin, il restait à manger à sa table, il lui donnait un demi-pain sec, un verre d'eau, il fallait qu'il mange tout le pain. C'était une école libre. Il y a des parents qui ont été se plaindre, un évêque et tout, il n'a rien voulu savoir, il prétendait être le maître chez lui, et il avait des résultats. C'est un monsieur qui avait 40 élèves, il pouvait se permettre de lire son journal, il n'avait pas un qui faisait une grimace dans son dos, ni rien. Ou de s'en aller fumer la pipe dans le couloir. Il en aurait eu 50, c'était pareil, puis il aurait eu des gars de 20 ans, c'était pareil, ou de 18 ans, c'était pareil. J'ai vu avant lui, j'ai vu des instituteurs, monsieur, des instituteurs pleurer devant un chahut de gamin de 10 ans, de 10, 12 ans. Vous voyez, des bonhommes qui avaient 50 ans, qui se chahut, c'est fini, ils ne pouvaient plus rien faire. Alors que lui, s'il avait pris cette méthode-là, lui, c'était un ancien officier de Légion, il fait beaucoup de la Légion étrangère, tous les ans, il avait ses fièvres. À une époque donnée, c'était réglé. Mais enfin, il nous racontait des belles histoires, tout, c'était un personnage vraiment attachant. Et qui avait des résultats avec les jeunes. Je crois qu'il prenait les jeunes comme il faut qu'ils soient pris, c'est-à-dire fermement.
Est-ce qu'il faisait attention à la façon dont vous parliez?
Ah oui, voilà. Il faisait attention à tout. Ah oui, oui.
Vous vous souvenez pour quel genre de choses?
Eh bien, par exemple, les liaisons, même les intonations de la voix, tout ça. Il insistait beaucoup sur les récitations, vous voyez, des poètes de La Fontaine ou Victor Hugo, des choses comme ça. Et alors là, il fallait qu'on débite nos phrases, non qu'on les récite, fallait qu'on donne la vie aux phrases, tout ça.
il nous apprenait des choses. Il se contentait pas d'un gars qui savait sa récitation par cœur, s'il la débitait sans, comme une litanie. Il avait une moins bonne note qu'un autre qui... Vous voyez, c'était presque des cours d'art, quoi, de théâtre. Fallait faire vivre le... Fallait que dans notre langage, fallait... C'est comme si, vous voyez, quand on parlait, on avait la phrase sous les yeux, il fallait marquer les virgules, les points-virgules, les points. Quand on s'arrêtait, ça voulait dire... C'est ça qu'il nous avait expliqué. Quand vous parlez, c'est comme si vous lisez. Revoyez les virgules, les points. Si vous allez à la ligne, marquez un temps d'arrêt. Ça, c'était, je vous dis, c'était un maître d'école. Comme on en fait sûrement très très peu. C'était une école qui était très courue, d'ailleurs. Tout le monde.
Et mis à part les récitations, il faisait attention à la façon dont les gosses parlaient
ou... Ah ben pour apprendre, fallait que ça rentre. Même, je vous dis, même le pire des camps, il fallait qu'il la sache. Il allait rester là, il a le gars, il n'a rien à savoir. Ce que je vous dis, c'est souvent de la paresse d'esprit. Mmh. Quand il rentrait dedans vraiment, ben le gars, il restait tout seul avec lui s'il faut. Il mettait trois et deux claques, même s'il fallait. Le gars, le lendemain, il la savait. Mmh. C'est bizarre. C'est là qu'on voit que... Je vous dis, il y a certes des gens qui ont de la facilité, mais lui... Lui, il la faisait rentrer.
Et quand dans les cours de récréation, par exemple, il faisait attention à la façon dont les enfants se parlaient entre eux.
Ah oui. Ouais, il était là. Toute la récréation, il était sur les marches. Et évidemment, il ne pouvait pas entendre ce qu'on disait, mais il faisait très attention. Et j'ai vu des fois, en train de causer, il surprenait... Il arrivait en tapinois derrière, il surprenait ce qu'on disait. Et je ne me souviens pas en récréation avoir eu de mots vraiment déplacés, vous voyez, comme on peut en avoir à ce temps-là. De rien que parce qu'il nous avait appris que c'était des choses à ne pas dire. Son pouvoir, il se limitait pas pendant les cours, mais après. Et ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai un ouvrier pâtissier qui est là, qui travaille avec moi, qui est à l'école avec lui, pendant le même cours aussi de plus jeune. Et il en a aussi un souvenir à périssable.
Oui. Et ça l'a marqué, enfin, il est resté...
Ah oui. Je vous dis, les gars qui sortent, je pense que c'est un peu comme à l'armée, le gars qui était là, un officier, que c'est un peu ça, vous voyez, le gars, il était marqué. À 14 ans, quand il sortait, on avait une ligne de conduite, tous. Je voyais, il y avait d'autres écoles, les gamins, ils se traînaient avec un niveau en sortant, tout ça. Alors que nous, des fois, il allait espionner. On voyait que on était de l'école, là. Deux par notre conduite. Il avait une influence.
Et votre ami, vous, est-ce que vous pensez que quand les... Enfin, qu'est-ce qui vous plaît dans la façon de parler des gens? Est-ce que c'est les gens qui parlent le plus naturellement possible?
Ah oui, voilà.
Oui,
naturel. Je ne suis pas à l'aise du tout. Moi, je suis à l'aise avec les petits gens naturels. Là, je suis dans mon milieu. Naturel.